antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il faut savoir pardonner et se pardonner aussi. C'est souvent difficile de pardonner à l'autre, mais alors se pardonner à soi-même, c'est une autre histoire. Nous accueillons Toby maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Toby.
Bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va très bien. Alors merci de nous avoir appelé au 3921, Toby, pour nous raconter votre histoire. Par où voulez-vous commencer?
Comme vous voulez.
Bah, écoutez, je ne sais pas, dites-moi. Il y a quelques années, je vous aide parce que j'ai votre fiche devant moi.
Exactement.
Il y a quelques années, donc vos parents divorcent.
Exactement, enfin il y a quelques années, il y a plus de, tu vois, je devais avoir 5-6 ans.
Ouais, et alors?
Et ils ont divorcé et pour moi, enfin, ce qui a été bizarre pour moi, c'est que je n'ai pas de souvenir, enfin je n'ai aucune image avec mes parents ensemble. Et donc j'ai toujours vécu un week-end sur deux chez mon père.
Ouais.
Et à l'âge de 10 ans, ma mère vient me voir en me disant « Toby, on va vivre en Israël. »
Oui.
Et comme c'est elle qui avait la guerre, je n'avais aucun mot à dire là-dessus. Et mon père non plus, car il ne pouvait rien faire.
Oui.
Donc à l'âge de 10 ans, je pars en Israël, dans une ville que je ne connais pas, que je ne connais absolument pas, dans une langue que je ne connais pas, et dans un nouveau mode de vie, dans une nouvelle école. Donc, tout est changé en un fragment de seconde.
Votre maman, lorsqu'elle prend cette décision, est-ce qu'elle elle vous demande votre avis ou elle vous impose ça, en fait? Pourquoi prend-elle cette décision, en fait?
Parce qu'elle n'aimait plus la France.
Oui.
Et elle voulait partir de la France. Et elle m'a dit directement, oui, tu vas voir, tu vas aimer. C'est un beau pays, tu vas t'intégrer, tu vas te faire plein de copains. T'auras une nouvelle école, on va vivre dans une belle maison. Donc elle m'a pas laissé le choix, elle m'a laissé aucun choix.
Donc vous voilà, ça a dû vous angoisser beaucoup déjà cette décision.
Ça m'a angoissé énormément.
Et
ça m'a angoissé.
Oui, parce que vous aviez des copains en France, vous aviez une vie.
Je commençais à me faire des copains et du jour au lendemain, tout s'efface, tout s'efface.
Vous étiez en quelle classe? Vous avez quel âge aujourd'hui là?
Là, j'ai 18 ans.
D'accord. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années, hein, c'est ça?
J'avais 10 ans quand je suis parti, oui.
Alors vous vous souvenez, vous arrivez en Israël, comment ça se passe?
Ça se passe, j'arrive tard dans la soirée, je m'en rappelle, et je découvre une nouvelle maison.
Oui.
Et en fait, je prends très vite en compte que ce n'est pas notre maison, mais la maison de ma tante, chez qui on va vivre. Et ma mère me dit que ça va durer juste quelques mois, juste le temps de trouver un travail, de gagner 2 mètres de l'argent de côté. Et elle me dit que ça va durer 3-4 mois, au plus tard, on sera déjà parti. Donc moi, je dis « Ok, il n'y a pas de souci ». Je commence, au bout d'une semaine, je commence une nouvelle école. Je rentre directement dans une école israélienne dont je ne parle pas du tout la langue.
Oui.
Donc je rentre dans cette école et je vois que les mois défilent et je vois qu'on ne bouge pas de cette maison avec ma tante. Et ce qui est énorme, moi, j'avais pas tout de suite d'être chez ma tante. J'avais juste un petit problème, c'est que je n'avais aucune intimité dans cette maison. Ma mère avait sa chambre, ma tante avait sa chambre, moi je n'avais aucune chambre. J'habitais dans une petite mezzanine qui avait accès à un jardin et où il y avait tout le temps du passage. Et après, un an après, ma mère est venue me voir en me disant « Tu changes d'école, on change de ville, on va aller vivre à Tel Aviv ». Parce qu'on habitait à Herzliya à l'époque, c'était une autre ville à côté.
Ouais.
Donc on va habiter dans une autre ville qui a 10-20 minutes en voiture. Donc je change d'école au bout d'un an. Donc je me suis fait des copains, donc je ne les revois plus parce que la ville elle est loin. Et donc je change d'école, je change de maison. J'arrive dans une autre école où ça se passe vraiment mal, où je commence à taper des crises. Je commence vraiment à ne pas être bien mentalement. Et je commence à dire à ma mère, maman, j'ai envie de rentrer en France, je suis pas bien, je veux rentrer en France. Elle me dit encore, essaye encore un an, tu vas voir, tu vas aimer et tout ça. Pour elle, elle est convaincue que je vais aimer Israël. Elle est convaincue de ça à 100%. Et je lui fais, non, j'aime pas, laisse-moi rentrer vivre chez mon père et tout ça, il me manque. Elle me fait, non, t'inquiète pas, tu vas aimer et tout ça. Et d'un autre côté, j'appelle mon père, j'appelle tous les soirs mon père en pleurant, en lui disant, papa, j'ai envie de rentrer en France, s'il te plaît, aide-moi, fais quelque chose et tout ça. Et lui, il me dit, écoute, essaye encore un an, et si tu n'aimes pas vraiment au bout d'un an, on fera les démarches. Je lui fais, ok, il n'y a pas de souci, je lui fais confiance. Et tous les soirs, je l'appelle en pleurant, en lui disant, papa, je veux que ça passe vite et tout ça. Il me fait, t'inquiète pas, ça va bientôt passer. Et pendant 4 ans, pendant 5 ans, c'était, j'avais pas un droit de parole envers ma mère en lui disant de ce que je pensais d'Israël. Dès que je lui parlais, j'avais un projet pour rentrer en France, elle mettait le sujet clos. Et elle voulait pas entendre que je veuille rentrer en France. Et donc, au bout de 5 ans, quand j'avais l'âge de 15 ans, au bout de plusieurs crises que je faisais, j'ai vraiment dit, maman, j'avais une rentrée en France. Parce qu'en fait, mon père, je le voyais aussi une à deux fois par mois par an. Donc, oui. Ce qui est très peu.
Il venait là-bas ou...
Non, c'est moi qui venais à Paris. Ouais. Je venais passer juste les vacances d'été et un peu les vacances de Noël. Donc ouais, c'était 2 mois et demi et c'était très peu pour de voir son père. Et je lui disais, papa, il me manque, laisse-moi rentrer en France et tout ça. Et au bout de 4 ans et demi, quand je suis allé le voir un mois à Paris, ouais. Je lui ai dit, écoute, papa, j'ai envie de rentrer en France. Je sais ce que je veux faire. J'avais déjà des projets de ce que je voulais faire. Il me dit, il prend en compte toutes mes paroles. Il me fait, écoute, on va tout faire pour que tu rentres l'année d'après.
Ouais. Et comment ça se passait là-bas en Israël? Vous étiez à l'école, vous avez...
J'étais à l'école israélienne. Ouais. J'aimais pas du tout le mode de vie là-bas.
Pourquoi?
C'est un autre mode de vie. Les gens sont beaucoup plus agressifs quand ils vont te parler. Même les cours, ils avaient tout en hébreu. Donc, du jour au lendemain, de passer de la grammaire en français et d'avoir des cours en hébreu, ça fait bizarre. Ouais. Et je ne me suis pas habitué à l'écriture en hébreu et à lire en hébreu. Je ne sais pas lire en hébreu et je ne sais pas écrire en hébreu. J'ai juste appris l'hébreu pour me débrouiller seul un peu dans la rue, dans les choses que je faisais au quotidien. Mais non, j'ai jamais voulu avoir le désir d'apprendre à lire et à écrire en hébreu. Il est jamais venu en moi et je voulais pas.
Ouais.
Et donc toutes les choses que je faisais, je les aimais pas, sauf un truc. J'aimais surfer. J'ai trouvé la passion du surf là-bas.
Ouais.
Et donc j'en faisais assez souvent. J'en faisais, en fait, les cours, faut savoir que l'école là-bas, elle commence à 8h. Et elle s'arrête à 13h et après, on n'a pas cours. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'avais une planche à moi au bout de 3 ans. Et j'allais surfer le matin avant d'aller à l'école. Et je retournais après l'école surfer. Donc, je me levais à 5h30 du matin. J'étais dans l'eau jusqu'à, on va dire, 7h30. Ouais. À 8h, j'étais en cours. Et à 13h et à 14h, je repartais à l'eau jusqu'à 6-7h du soir.
Et à l'école, vous n'arriviez pas à vous y faire à l'école, vous...
Non.
Non.
Non, du tout.
Pas de copains?
Non.
Vous pensez que vous avez fait un rejet total de là-bas? C'était quoi qui vous manquait? C'était vos copains en France? C'était le système français? C'était quoi?
Déjà, je suis très attaché à Paris. J'aime énormément Paris. J'aime. Je sais pas, j'aime beaucoup Paris. J'avais un papa que je voyais pas, donc ça me manquait énormément.
Oui.
Quand on le voit une fois par mois par an, c'est un peu énervant. Donc on veut le voir encore et encore. Et moi, ça me saoulait. Donc je voulais voir mon papa. Je voulais avoir les cours en français. Je voulais travailler en France. C'était inimaginable que je travaille en Israël. Je le savais, je le sentais en moi. je savais que je n'allais pas avoir mon bac ou avoir un diplôme en Israël ou commencer mes études professionnelles en Israël. Mmh.
Alors du coup, vous avez pu rentrer, pu échanger avec votre maman. Elle a accepté, votre mère, que vous rentriez, elle voyait.
Elle a accepté au bout de 5 ans, au bout d'une crise que je faisais. Ses amis lui ont dit, laisse-le rentrer en France, arrête de l'obliger à rester en Israël.
5 ans, ça a duré longtemps, dites donc. Vous avez dû souffrir là-bas, non?
En fait, comme il y avait le surf qui me sauvait un peu là-bas.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Heureusement qu'il y avait le surf, ouais.
Ouais, il y avait le sport, le surf, donc c'était la seule chose qui me faisait plaisir là-bas. Et ma mère ne sait pas, mais mon père il le sait, parce qu'on en a parlé, j'en ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps. C'est qu'en Israël, j'ai tenté plusieurs fois de me mettre fin à mes jours.
Ouais, bon, donc ça n'allait pas terrible là-bas.
Ah non, ça n'allait pas du tout.
Alors. On a bien compris que cette période, ça doit être un très mauvais souvenir.
Oui.
Vous rentrez en France, vous finissez par rentrer en France. Elle vous laisse partir, votre mère ?
Elle me laisse partir en France. Au début, j'avais du mal un peu à y croire. Hein. Je ne me cache pas. De faire deux grosses valises où je prends toutes mes affaires, ça m'a fait un peu bizarre. Quand je suis arrivé dans le territoire français, ça m'a fait un peu bizarre. Mmh. En croyant que c'est parce qu'en fait, je suis arrivé pendant la période des vacances. Donc, je me suis dit, est-ce que je reste vraiment là aussi en septembre, en octobre? Donc, ça m'a fait un peu bizarre. Et oui, c'était bien réel.
Vous étiez enfin.
Donc, là, ouais. Ça, c'est... J'avais enfin réussi à faire quelque chose de ce que je voulais.
Alors? Vous rentrez en France. Et donc, du coup, comment ça se passe, votre retour en France? Parce que là, ça faisait 5 ans que vous étiez en Israël. Donc, ça ne devait pas être évident pour vous de rentrer.
Non. En fait, quand je rentre en France, j'ai 15 ans. Et la première chose, c'est d'aller à l'école. Moi, j'avais énormément envie d'aller à l'école, d'aller dans des classes françaises, d'avoir des cours français, de reparler français, d'avoir une vie de Parisien, de revivre ce que j'y vais il y a quelques années en petite classe. Et quand on va pour m'inscrire à l'école, il y a l'éducation nationale qui me refuse totalement en me disant que je ne suis pas français à leurs yeux.
Ouais.
En me disant vous avez vécu 5 ans à l'étranger. Pour nous, il n'est pas français. Vous devez faire plusieurs tests. Donc, j'ai subi des tests de l'éducation nationale pour faire des tests de français, des tests de mathématiques et tout ça.
Ouais.
Je les ai faits. Au final, ça n'a rien abouti. Parce qu'au bout d'un an, moi déjà, à cette époque, j'étais passionné par, je suis passionné pour tout ce qui est l'événementiel. Les festivals, spectacles, j'étais passionné pour ça. Mmh. Et j'étais passionné par ingénieur en lumière.
D'accord.
Et je suis rentré dans une école française. Je suis rentré dans une école au bout de 15 ans, une école qui m'acceptait à l'âge de 15 ans.
Ouais.
Donc je suis rentré là-bas, passionné par tout ce qui est lumière et tout ça. Je rentre passionné et ça commence à vraiment très mal se passer dans cette école. Car le prof me parle mal, il parlait mal, mais il étudie mal. Enfin, je ne voyais pas en quoi ce prof pouvait m'apporter dans mon rêve d'ingénieur en lumière. Il m'apportait rien du tout en termes de cours. Je faisais totalement l'inverse. Enfin, je faisais totalement autre chose de ce que j'avais prévu comme cours,
oui.
De ce que j'avais demandé comme cours. Et donc ça se passe hyper mal à la maison parce que aussi d'un côté quand on est avec un père qu'on n'a pas vu pendant longtemps, on essaie d'apprendre à se connaître, donc on est un peu maladroit.
Oui.
Donc on commence à s'engueuler pour un oui ou pour un non. Tous les soirs, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Donc pendant un petit moment, c'est très dur. Pendant tous les soirs, on s'engueulait pour un oui ou pour un non. À l'école, ça se passait mal. Je lui disais, je vais quitter l'école. Il me dit, non, tu ne quittes pas l'école, t'attends la fin de l'année et tout ça. Et donc ça, c'était aussi pendant une galère. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Je suis parti d'Israël pour vivre un bonheur et je ne trouve pas le bonheur en France.
Ouais, vous étiez à nouveau largué, là, un peu, je
ah,
suppose.
Ouais, je me disais, qu'est-ce que je fais? Donc j'avais des projets pour repartir en Israël et tout ça. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc dans tous les cas, dans les deux pays, je suis malheureux. Et au bout d'un moment, je dis à mon père, bon, écoute, voilà, écoute, là, j'arrive de partir en internat. Il était venu la veille du site. Je lui ai dit, papa, écoute, j'ai envie de partir en internat, laisse-moi partir en internat et tout ça. Il m'a dit, non, j'ai pas envie que tu fuis une deuxième fois, tu iras pas en internat, ne t'inquiète pas, tu iras pas en internat, tu finis ton année à l'école et après on trouve un autre projet. Et le lendemain de cette discussion que j'ai eue de l'internat, j'entends mon père parler au téléphone. Et il a dit une phrase qui était un peu, enfin, que je m'en rappelle comme si c'était hier. Il dit au téléphone, je m'en fous, je veux juste que mon fils soit heureux dans la vie. Et cette phrase, elle était importante. Je ne savais pas avec qui il parlait, mais je savais qu'à ce moment-là, quelque chose allait changer. Donc je ne dis rien, je fais comme si rien n'était. Et mon père vient me voir en me disant, Toby, est-ce que tu connais l'école démocratique? Alors, je connaissais déjà un peu l'école démocratique. Je ne sais pas si on peut expliquer aux auditeurs, je ne sais pas s'ils connaissent.
Ah bah si, vous pouvez expliquer, bien sûr, bien sûr.
Ouais, ah bah, alors une école démocratique, c'est une école en fait, bon ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens, c'est une école en fait où on laisse la personne faire ce qu'on veut de sa journée.
Ah d'accord.
On arrive okay. Le matin, Et donc moi je connaissais déjà c'était les écoles démocratiques, c'est très connu en Israël, c'est très connu aux États-Unis. Et je pouvais peut-être rentrer dans une école démocratique en Israël, mais pour des problèmes d'argent ou je ne sais quoi, ma mère ne m'a pas mis dans une école démocratique. Et mon père me dit, écoute, viens demain, on va voir cette école, si ça te dit, tout ça. Et donc je lui dis, oui, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain, on va voir cette école qui est dans Paris.
Ouais.
C'est un tout petit loco. Et c'est voilà, on y a 20 personnes dans l'école et je rentre dans l'école et bon au départ je trouve un peu bizarre, je trouve que ça fait un peu gamin. Je me dis oh non, j'ai pas mal retourné en enfance tout ça, mais je me dis je peux essayer. Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus mal encore? J'ai déjà tout vécu pour je peux encore revivre encore une déception, ça me dérange pas.
Bah surtout que excusez-moi de vous interrompre, mais surtout oui. Que vous étiez un peu au bout du rouleau là, visiblement
là,
vous aviez tout
rouleau,
essayé, il y avait ouais, vous n'aviez plus enfin ouais. C'est comme si plus personne, aucun système ne vous correspondait.
Exactement.
Et donc du coup
exactement. Et donc du coup bah je rentre dans cette école. Je teste une semaine, ça me plaît, je vois que je suis à l'aise dans l'école, que je suis pas jugé, que je commence à parler avec les gens, que je commence à me livrer, que je commence à sourire de plus en plus, à découvrir d'autres choses que j'aime. Même, toujours dans l'événementiel, j'avais toujours la passion pour la lumière.
Voilà,
j'ai commencé à aimer les...
Vous échangez avec qui, là, dans cette école? Il y avait des gens, je sais pas, il y avait des profs ou des membres
il y avait...
ouais.
Non, c'est pas des profs, c'est des membres adultes
oui.
Qui ont entre 20 à 30 ans, et il y avait des jeunes membres qu'on va dire élèves, mais c'est pas des élèves parce qu'il n'y a pas de cours, donc on peut pas dire ces élèves, mais c'est des membres enfants. Qui ont entre 4 à 18, 19 ans. On est tous mélangés. Et ce qui est ouf dans cette école, c'est que déjà, personne n'est jugé. Et qu'on peut. J'ai parlé avec une fille de 5 ans de politique. Bon, c'est pas trop mon truc de la politique, mais elle m'a appris plein de choses. Enfin, elle m'a parlé de beaucoup de choses sur la politique que je connaissais pas. Et au bout de quelques mois, j'ai eu d'autres passions qui sont arrivées, qui s'est révélées. J'ai eu la passion pour la photo, donc j'ai commencé à faire des photos, les poster sur les réseaux sociaux. Je voyais que ça commençait à faire un gros buzz, mais un mini buzz, que les gens commençaient à aimer ça. Donc j'ai commencé à m'améliorer dans la photo, à organiser des shootings, à gérer des castings. D'un autre côté, j'aimais comme toujours dans l'événementiel. J'aime toujours, enfin, j'étais toujours passionné par la production. Mmh. Donc, je me dis, c'est quoi une production et tout ça. Donc, je me suis dit, au bout d'un an, enfin, au bout de deux ans, dans cette école, je vais essayer de produire quelque chose. Donc, j'ai produit avec mes potes.
Dans cette école, on vous a apporté quoi, en fait pour, j'ai l'impression qu'on vous a apporté comme... on a cru en vous, en tout cas, on vous a consolidé dans vos rêves, en fait, hein, et votre volonté de vous accomplir. C'est ça, en fait, cette école ?
C'est ça. En fait, dans cette école, on va rien te proposer, mais si tu proposes quelque chose, si tu proposes quelque chose que tu aimes,
oui,
on va le dire, tu peux le faire, fais-le, et on va t'aider pour le faire.
D'accord. Ouais, c'est génial.
C'est génial, oui.
Ça veut dire que finalement, on t'apprend dans cette école à devenir l'homme que tu veux devenir, en tout cas le garçon que tu veux devenir à ce moment-là. En tout cas, on t'apprend à te construire, en fait.
Exactement.
C'est plutôt une belle matière, ça. Hein, elle n'est pas au programme de l'éducation nationale, celle-là.
Non, malheureusement, non. Mm-hmm. Ouais, et j'en parle autour de moi, ils connaissent pas et tout ça, donc ça leur fait un peu bizarre, un peu un choc.
Ouais.
Bah parce que laisser un enfant de 6 ans ou de 16 ans faire ce qu'il veut de sa journée, ça peut faire un peu bizarre au début.
Il y a des plus petits dans cette école, parce que vous aviez 15 ans, 16 ans quand vous entrez.
Ouais,
il y avait des plus petits aussi
Il y avait des plus petits. La plus petite, c'était une fille, elle avait 4 ans.
D'accord.
4 ans, et c'est la première fois que je voyais une enfant de 4 ans se faire à manger toute seule. Couper des tomates, mettre de l'eau sur le gris, faire tellement de choses que moi-même, à 4 ans, je ne le faisais pas. Mmh, mmh.
Qu'est-ce que vous diriez, en fait, qu'on apprend aux enfants dans cette école ? Alors, du coup, parce que, comme vous dites, vous aviez 15 ans, vous, mais aux plus petits, ceux de 4 ans, de 7 ans, de 10 ans, parce que je suppose qu'il y a tous les âges dans cette école.
Oui, il y a tous les âges.
Vous êtes tous ensemble ?
On est tous mélangés.
D'accord. Mmh.
Et après, ce qu'on apprend, on n'apprend pas des choses spécifiques. On n'apprend pas des choses comme à l'école,
ouais,
mais on apprend des choses sur soi, sur qui on est vraiment, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut faire. Et en fait, parce que j'ai une image de cette école, c'est comme si demain on amenait une voiture toute cassée au garage.
Ouais.
Et qu'on changeait toutes les vis, qu'on changeait toute la voiture et on la réparait, on la remettait à neuf pour qu'elle repart sur la route. Bah là, c'est pareil. C'est comme si quelqu'un venait tout casser, tout démoli dans cette école et qu'il repart tout réparé.
C'est génial. Ouais, c'est génial. Oui. Et vous avez senti que ça opérait aussi sur les autres autour de vous, sur les autres enfants aussi ?
Oui.
C'est quoi,
bon, après,
c'est...
faut savoir, moi, je...
dites-moi. Bah,
après, dans cette école, j'étais toujours un peu à l'écart, parce que je suis un enfant un peu timide, j'aime pas trop aller vers les autres, j'ai un peu de mal, donc j'allais pas souvent vers les autres.
Ouais.
Après, quand j'allais vers les autres, c'était toujours pour faire des blagues ou pour faire rire, c'était toujours mon petit côté caché qui était timide, enfin, c'était mon petit côté timide qui se montrait, mais sinon... J'étais toujours dans mon coin à écrire, à regarder des choses qui m'intéressaient. Et voilà, et ça a duré un an et demi, et un an et demi de bonheur, on va dire.
Mmh. C'est-à-dire qu'on vous a laissé pousser tout seul, vous réaliser tout seul, comme ça.
Exactement.
Mmh. On a respecté, en fait, celui que vous étiez.
Mmh. On m'a laissé du temps pour me découvrir.
On vous a laissé du temps. Et à votre avis, en fait, c'est ce qui manque profondément dans les autres écoles que vous aviez connues avant ?
Je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin du système classique, qui ont besoin d'être suivis.
Ouais.
Après, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui connaissent pas l'école démocratique et qui ne trouvent que le système classique n'est pas fait pour eux.
Mmh. Bah, il y en a pas mal, malheureusement.
Il y en a pas mal et c'est faut que ces écoles se reproduisent encore et encore.
Mmh. Bah, en tout cas, ce type d'école pourrait être vraiment des alternatives à tous ceux qui ne se sentent pas bien dans le système classique. Vous avez raison. Ouais.
Exactement.
Mmh. Vous y retournez de temps en temps ?
Oui, je retourne les voir de temps en temps pour parler. Bah, j'ai une membre adulte qui est là-bas, sur qui je la prends comme ma sœur. Et pour elle, je suis comme son petit frère, elle me dit souvent.
Ouais.
Et on parle, et elle me raconte, elle me demande qu'est-ce que je deviens et tout ça. Et elle voit, je lui raconte tout ce que je fais depuis.
Mm-hmm.
Parce que ça fait maintenant, aujourd'hui, ça fait un an que je suis parti de l'école.
Ouais. Et tout se passe bien pour vous ?
Tout se passe bien.
Bah super. C'est génial. Voilà. C'est génial que on ait votre parole ce soir, celui d'un garçon de 18 ans quand même, parce que
voilà.
C'est vrai que la moyenne d'âge de la moyenne d'âge de la Libre Antenne, elle est mais elle n'est pas de 18 ans. Mais écoutez, mille merci de votre témoignage, Toby. C'est savoir qu'il y a une alternative pour ceux que. Alors les parents qui nous écoutent à cette heure-là, parce que peut-être les enfants sont couchés, mais qu'il y a une autre alternative dans cette école démocratique que vous nous avez décrite ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Mille merci, Toby.
Merci à vous.
Et passez une belle nuit et bravo pour le bonheur. Bravo.
Merci à vous.
Bonne nuit,
merci
Toby.
À vous.
C'est la fin. Au revoir. C'est la fin de cette libre antenne. Je vous retrouverai demain avec grand plaisir. Il est 1h du matin. Et je vous donne rendez-vous à partir de 22h30 demain soir, bien évidemment, et tout au long de la semaine.